Bien, alors, pourquoi me suis-je lancé dans cette aventure toujours très périlleuse de faire un panorama d'une industrie ou d'une technologie sur une période de, pas très longue, d'un siècle, mais qui est quand même très complexe. Tout simplement parce que c'est un peu suite à la conférence qu'avait faite Jacques Folléas il y a 2 ans sur les avions du début de la guerre 39-45, qui m'a dit « Mais je vais chercher si on a déjà parlé d'aéronautique à l'UTB ». Réponse « Non, avant vous ». Alors je dis « C'est quand même dommage parce que les avions et accessoirement les fusées, ça a occupé une certaine place dans le paysage ». Donc première idée, eh bien, on regarde ce que d'autres ont fait. Et Dieu sait si maintenant avec Internet, on a des sommes sur le sujet qui sont très volumineuses. Évidemment, j'ai utilisé une partie de ces sources. Une fois avoir passé un petit peu rapidement ça en revue, eh bien, je me suis rendu compte que on n'est jamais satisfait par ce qu'on a. Hein. C'est-à-dire, soit c'est trop centré sur les avions, soit c'est trop centré sur la technique, soit c'est trop centré sur l'aspect aventureux de l'aviation. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu original, en mixant plusieurs approches du sujet. Et en particulier, l'arrière-plan humain, sociétal, organisation générale du système, en général est... soit absent, soit traité d'une façon très cosmétique. Alors, c'est moi qui commence la série, puisqu'on a pris 2 conférences. Alors, ça, j'avais demandé à Jacques Folléas, qui est ici, qui va me succéder, donc le 1er avril, qui va nous faire l'aviation pendant les 2 conflits mondiaux, hein, de 14-18 et 39-45. Lui, il a une supériorité tout à fait exceptionnelle sur moi. Il pilote des avions, donc il sait ce que c'est. Moi, j'en parle comme un amateur éclairé, on va dire. Et ensuite, il y a une 2e conférence qui nous a été proposée par Claude Lyonnais, qui est un de nos historiens, et qui est totalement atypique dans son programme habituel. Je rappelle que Claude Lyonnais a été président de l'UTB de Beaune. Maintenant, il a passé la main. Et donc, il va nous parler du développement de l'aviation commerciale entre les 2 guerres. Et donc, je terminerai le cycle parce que j'avais prévu, alors ça c'était mon plan initial, de parler d'Elon Musk. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité, Elon Musk, c'est l'entrepreneur américain qui a fondé, entre autres, Tesla, la voiture électrique, et SpaceX, les fusées. Voilà, alors donc les 2 conférences qui vont suivre la mienne, évidemment je ne vais pas les refaire en supplément de ceux qui les feront, je citerai simplement le thème de leur conférence. Donc on y va. Voilà le plan que je vous propose, donc je ne lis pas, hein. Vous pouvez le lire comme moi, et on y va. Donc les préliminaires... Le rêve de l'humanité, depuis même dans la mythologie, c'est de voler, puisqu'on a l'exemple des oiseaux. Et donc ça, c'est un rêve au plus profond de l'homme. Et le mythe d'Icare en est une illustration. Hein, voilà. Léonard de Vinci, incontournable, hein, Léonard de Vinci avait fait beaucoup de travaux avec ses machines, qui étaient spéculatifs, hein, mais... voilà une des images de ces machines en écriture spéculaire. Vous savez qu'il est, il était spécial, il écrivait à l'envers, c'est-à-dire l'écriture qu'on ne pouvait lire que dans un miroir. Hein. Et voilà quelques figures du 19e siècle qui se sont intéressées à ce qui n'était pas encore l'aviation. Et je voulais insister sur une chose, c'est que pour des raisons... bizarre et curieuse, c'est la France qui est à l'origine du développement de l'aviation, du développement, on va dire, industriel, dans les 10 premières années du XXe siècle. Alors ça, c'est, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi en France plutôt qu'ailleurs ? Je vous ferai grâce du génie français, hein ? C'est pas la bonne solution. De ce que j'ai pu lire, Une des idées, c'est bien du fait qu'on a une antériorité dans tout ce qui concerne l'aérostation, c'est-à-dire les ballons. Je rappelle les montgolfiers, la bataille de Fleurus, et, je vous le raconterai un petit peu plus tard, tout ce qui s'est passé à Chalais-Meudon, qui était la compagnie d'aérossiers qui a été fondée après la guerre de 70, ça doit être en 1876, et qui, pour la guerre 14-18, avait développé des ballons spécifiques pour l'observation dans les conflits. Alors, on va passer en revue quelques figures iconiques. Jules Verne. Donc, Jules Verne, on le retrouve partout, aussi bien dans les hélicoptères que les avions que les fusées. Et tous les grands développeurs de ce qui vole dans l'air citent imparablement Jules Verne. Alors celui-là, vous le connaissez certainement moins, Gustave Ponton d'Amécourt, et je mets avec son copain, son copain Nadar, Ponton d'Amécourt, ben, il a inventé le premier hélicoptère, mais le premier hélicoptère, c'était quand même un petit jouet avec un petit moteur électrique et puis des hélices, et ça volait, donc dans les années 1860. Et il a inventé deux noms, hélicoptère, c'est lui qui a inventé le mot hélicoptère, et il a inventé le mot aviation. C'est lui qui a créé ces deux mots. Nadar, on le connaît comme un photographe, ça n'était qu'une partie très visible de son activité. Il a fait des tas de choses, et en particulier, il a fait des ballons. Et le fameux ballon dans lequel s'est envolé Gambetta pendant le siège de Paris pendant la guerre de 70, c'était un ballon de la compagnie de Nadar. Il en a fait une quarantaine. Et le dernier qu'il faut citer, c'est celui-là, c'est le local, c'est monsieur le docteur Marais, hein, Jules Marais, qui habite et qui est né à Beaune et qui a fait ses expériences sur la colline de la Folie à Chagny et qui a, entre autres avec sa chronophotographie, permis de comprendre le mode de fonctionnement des ailes d'avion, des ailes d'oiseaux. Et tous ces gens-là, et ceux que je cite après, voilà. Alors, un qui est mal connu, pourtant qui a joué un rôle important, c'est Octave Chanute, comme on dit. En fait, c'est un homme d'origine, il est né aux États-Unis, mais ses parents étaient français, ils avaient émigré pour des raisons personnelles. Et ce gars-là s'est passionné pour l'aviation, alors que l'aviation n'existait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, c'était un compilateur de tout ce qui s'écrivait au sujet du vol du plus lourd que l'air. Et donc, c'était le passeur d'informations entre les Wright, les Adair, les voisins et compagnie. Et donc, Octave Chanute a une correspondance extraordinaire et qui a mis en lien, c'était Internet avant l'heure, c'était un petit peu comme... les passeurs d'idées comme au XVIIe siècle, la correspondance scientifique. Voilà un des ballons du commandant Renard à Chalais-Meudon. Et voilà une autre icône, c'est Otto Lilienthal, qui a fait beaucoup d'essais, on va dire, de cerf-volant. Pendant 10-15 ans, il a fini quand même par se tuer dans son dernier essai, à la fin du 19e siècle. Mais il a écrit beaucoup, il était aussi bien sûr en contact avec Octave Chanute. Et ceux qui ont suivi ont utilisé les enseignements des essais d'Otto Lilienthal. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Et les gens qui vont s'intéresser à l'aviation, on peut les classer dans trois grandes familles. La première famille, ce sont les mécènes. c'est des gens qui ont de l'argent, qui s'intéressent au sujet, mais qui monteront jamais sur un avion, ou très rarement, qui peuvent donner de l'argent soit pour construire des avions, soit pour financer des prix, pour battre des records, ou même fonder des prix à leur nom. Les ingénieurs, il y a aussi des ingénieurs, il en faut, il y en a beaucoup dans la salle, donc soit des polytechniciens, il y a beaucoup de centraliens dans les fondateurs de l'aviation, et la troisième catégorie, ce sont les mécaniciens, donc les génies de la mécanique, qui en général qui viennent du vélo ou de l'automobile naissante, et donc qui sont des bricoleurs de génie. Et le mélange de ces trois familles est magique, et ça permet d'amorcer la pompe, de créer cette nouvelle industrie. Alors, on va déjà parler des mécènes. Je ne vais pas tous les citer, bien sûr. J'en ai choisi trois qui sont... Alors, le premier s'appelle... Alors, ça s'écrit Archdeacon, ça se prononce Archdeck. Hein, c'est un avocat irlandais qui a fait fortune, qui a plein de fric, qui vit en France et qui est passionné par l'aviation. Le deuxième, c'est Deutsch de la Meurthe, c'est le barbu, là, celui-là. C'est un industriel français qui a fait fortune dans les pétroles, déjà, à la fin du 19e siècle. Je rappelle que le pétrole a été trouvé vraiment d'une façon significative, on va dire industrielle, le fameux colonel Drake, 1860. Mais à l'époque, avec une utilisation du pétrole, c'était la lampe à pétrole. Et ce n'était pas un marché extraordinaire. C'est l'automobile qui a lancé le marché du pétrole, évidemment, avec l'essence. Et le troisième, c'est De Dion, le comte De Dion, De Dion Bouton. Vous avez déjà entendu ce nom-là. Donc c'est un des premiers constructeurs d'automobiles. Alors voilà maintenant ceux qui ont fait les avions. Donc le premier, il est incontournable, c'est Adair. Adair, c'est un Clément Adair qui a fait le fameux Zéole. Donc là, c'est la photo, c'est même la photo que j'ai prise moi-même au musée des arts et métiers, puisqu'il n'y a que le dernier exemplaire de son avion qui a subsisté et qui est exposé à Paris. Et Adair, c'est un ingénieur qui a fait fortune dans les téléphones. Ça n'avait rien à voir avec l'aviation. Mais lui, il était fasciné par les oiseaux. Il a dit, si j'arrive à refaire une machine qui, physiquement, a l'aspect d'un oiseau planant, et je mets des hélices, mais qui vont ressembler un petit peu à des plumes, eh bien, ça va marcher. Ça a presque marché, on va dire, parce que le moteur qu'il a utilisé pour faire ça, c'est un moteur absolument génial, c'est un moteur à vapeur, il faut remettre ça à l'époque, hein, qui fonctionne à l'alcool. Si je dis des bêtises, tu me coupes. Hein. Ça va. Donc, tant que tu hurles pas, c'est que c'est bon. Voilà. Donc, c'est très controversé. Donc, il a fait des sauts de puce, on va dire. Et on dit c'est le premier qui est volé. Un vol piloté, c'est-à-dire avec le pilote à l'intérieur de l'appareil. Il a fait des sauts de cabri. Et on sait aujourd'hui pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Il y avait deux raisons. La puissance de son moteur est insuffisante. Et deuxièmement, il n'avait pas la stabilité de roulage, de roulis et de tangage. Il n'y avait pas de queue à son avion. Donc il n'avait pas été jusqu'au bout de la logique de mimétisme vis-à-vis de la structure des oiseaux. Mais enfin, et en plus, comme il n'y a pas eu de témoin officiel, entre guillemets, c'est quand même l'armée qui finançait ces projets, le fait qu'il ait volé a toujours été controversé. Et puis il en avait marre, il a tout laissé tomber. D'ailleurs, le premier, il l'a brûlé, je crois qu'il l'a détruit, son premier avion. Voilà. Et ceux qui ont vraiment volé au sens moderne du terme, ce sont les fameux frères Wright, voilà. Voilà les deux frères, Orville et l'autre, je ne me souviens plus comment ils s'appellent. Et alors, ce qui est très curieux, leur avion est fait à l'envers par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que la dérive de profondeur est devant et l'hélice est à l'arrière. Donc, c'est un avion canard, on dit. Hein. Et ça marche très bien, d'ailleurs, il n'y a pas de problème particulier, mais ce n'est pas très pratique, parce qu'en particulier, vu la position du pilote, il ne voit pas tellement ce qui se passe. Voilà. Donc c'est une architecture qui a été relativement vite abandonnée. Alors le problème des frères Wright, donc on dit qu'ils ont fait le premier vol en 1903 sur une plage de la côte est des États-Unis, mais il y a aussi une polémique autour de ça, il n'y avait pas de roue à l'avion, c'est-à-dire l'avion était lancé par une catapulte, c'est-à-dire ça commençait dans un petit vol plané et après le vol motorisé prenait le relais. Et en plus, ils n'ont pas communiqué puisqu'ils avaient pris des brevets et les frères Wright, ils ont toujours voulu cacher leur copie et en particulier vis-à-vis des Français qui avançaient. On dit, ben, d'accord, on va vous dire comment c'est fait, à condition que vous payiez des redevances. Les autres disaient, les Français disaient, ben non, montrez-nous d'abord, on paiera les redevances après. Donc, en fait, ils sont venus en France en 1908, et là, on a quand même accepté l'idée qu'ils avaient eu un rôle essentiel dans le développement de l'aviation. Alors, voilà une panoplie de tout ce qui s'est fait à l'époque. Je ne vais pas le détailler, hein. C'est un petit panoramique. Et on va passer en revue quelques noms mythiques de tout début de l'aviation. Les frères voisins. Alors voilà la catégorie des mécanos qui bricolent dans leur coin, qui n'ont pas de démarche scientifique, qui est une démarche purement expérimentale. Et en plus, ils y sont bien arrivés. Voilà un des avions voisins. Après, il y a eu un atelier qui s'appelait Voisin Frère. Alors, je m'arrête un petit peu sur celui-là, qui est un peu atypique dans le paysage, qui est méconnu dans la mémoire collective. Robert E. Esnault-Peltery, est-ce que vous le connaissez tous? Vous n'avez jamais entendu parler? Eh bien, c'est un personnage tout à fait important. Donc, il a fait des avions, et en particulier certains des premiers avions monoplans. Et lui, il était, alors, à contrario, c'est pas un ingénieur au sens qu'il n'a pas fait une école, mais il était licencié en sciences, il avait une bonne formation scientifique. Très bonne famille, et ses parents étaient riches, ce qui lui permettait de faire le développement sur ses fonds propres. Voilà un avion qui est au musée du Bourget, où on voit... C'est lui qui a fait plusieurs inventions significatives, j'y reviendrai, en particulier le manche à balai. J'expliquerai le pourquoi et le comment du manche à balai. Alors, pourquoi il est important, Esnault-Peltery, c'est qu'il a été très actif dans tous les organismes périphériques. Le premier organisme, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, c'est l'Aéroclub de France. L'Aéroclub de France, c'est une structure... une association, on dirait aujourd'hui, qui a été créée en 1898, avant qu'aucun avion n'ait jamais volé. Donc il y a une structure, en France, c'est le seul pays où ça existe, qui s'occupe de dire, eh bien, on va s'occuper de l'aviation du plus lourd que l'air. Et ça, c'est financé par tous les mécènes que j'ai cités auparavant. Donc, il a été très actif dans cette structure-là, et après, dans tous les organismes, on va dire, privés, qui s'occupaient un petit peu de la promotion de cette technologie. Il a été en conflit, entre autres, avec un ingénieur dont je parlerai beaucoup, c'est Albert Caco, qui était, lui, on va dire, l'apparatchik de l'aviation, mais dans l'État. Albert Caco, c'est un polytechnicien, qui a joué dans l'aviation et dans le béton armé. Ben le voilà, d'ailleurs. Alors, un autre qu'on a tous oublié, mais qui est très important, c'est M. Coanda. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là, M. Coanda? Eh bien, Coanda, c'est un des pionniers de l'aviation en France. C'est un Roumain qui... a travaillé avec tous ceux que je suis en train de citer, et c'est le premier qui a fait un avion à réaction en 1910 et qui s'est planté contre un mur au premier essai. Alors, un avion avec de l'air compressé qui crachait dans une chambre de combustion et qui était placé des deux côtés du fuselage. 1910. Ça a tellement bien marché que il s'est planté dans dans le mur qui était dans le hangar, si vous voulez. Donc il a arrêté là. Et Coanda, c'est devenu, on dirait, en Roumanie, il est très connu, il est académicien, il est célébré en disant, si on parle en Roumanie, qui est-ce qui a fait l'aviation dans le monde? Il n'y en a qu'un, c'est Coanda. Voilà. Alors, l'autre, c'est Albert Caco. Albert Caco, c'est un polytechnicien qui a commencé dans l'aérostation, ensuite qui s'est occupé pendant la guerre 14-18 des ballons Caco. Les ballons Caco, c'est ce qu'on appelait les saucisses. C'est des ballons qui sont moins sensibles au vent que les... C'est des avions profilés, si vous voulez, comme des dirigeables, et qui servaient pendant la guerre 14-18 comme ballons d'observation. Ensuite, il a fait beaucoup de béton armé. C'était quand même son métier de base. Voilà les ballons Caco. Vous voyez les saucisses, à quoi ça ressemblait, 1916. Le voilà jeune, le voilà vieux. Et après, à plusieurs reprises, il est revenu dans l'activité aéronautique, appelé par les pouvoirs publics pour organiser l'industrie. J'y reviendrai tout à l'heure. Blériot. Blériot, c'est un centralien qui a fait beaucoup d'avions. Vous savez qu'il a traversé la Manche en 1911, mais on se fichait de la figure de Blériot puisqu'il cassait autant d'avions qu'il construisait. Donc la presse ricanait chaque fois que Blériot faisait voler un avion parce que chaque fois ça se plantait. Bon, la dernière fois, le Blériot 11, le voilà. Donc vous voyez, la structure de l'avion s'est stabilisée telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'hélice à l'avant, la dérive arrière et le pilote au centre. Voilà Blériot. Alors je rappelle aussi qu'il avait un concurrent qu'on a complètement oublié parce que lui, il n'a pas réussi à traverser la Manche avant, c'était Hubert Latam. Hubert Latam qui était aussi un ingénieur et qui a raté le coup d'une journée puisque la veille du jour où Blériot a réussi à traverser, il avait traversé dans l'autre sens. Et il est tombé en panne 500 mètres avant d'atterrir sur la terre ferme. Alors je rappelle aussi que pourquoi c'était si difficile, c'était pas tellement une question de puissance des moteurs, c'était le problème que les moteurs, très rapidement, tombaient en panne, soit par des défauts d'alimentation, soit par les moteurs serrés, c'est-à-dire le piston se dilatait plus vite que le cylindre. Et donc l'hélice s'arrêtait, puis là il n'y avait plus personne. Et on utilisait, pour éviter ces problèmes de grippage, eh bien, on utilisait beaucoup d'huile, on consommait autant d'huile que d'essence, et en particulier de l'huile de ricin qui était très utilisée à l'époque pour la lubrification des moteurs. Le capitaine Ferber, qui est le premier qui est volé en France dans un vol autopiloté en 1905, et ça devant témoin, 1905. Et je raconterai son histoire un peu plus en détail, un petit peu plus loin. Il est malheureusement mort dans un accident en 1918. Voilà. Alors, vous voyez qu'un militaire qui vole n'a pas un casque et des lunettes, il a son uniforme et sa casquette. Ça, c'est... Alors, voilà les fous volants. Donc, Santos Dumont. Santos Dumont, c'est un original... argentin, hein, qui a beaucoup d'argent, qui a volé sur des avions, vous voyez, à la mode des Wright, c'est-à-dire la dérive qui est devant. Et le premier exploit qu'il a fait, ben, c'est de faire le tour de la Tour Eiffel en dirigeable propulsé par une hélice. Et donc on le voit sur un de ces avions. Alors, je vous fais observer une petite chose là. Vous voyez, il y a des volants ici. Et dans les avions d'origine, eh bien, pour actionner sur toutes les commandes, il y avait la commande des gaz, la commande des dérives et la commande ce qu'on appelait ensuite des ailerons pour corriger l'assiette de l'avion. Et tout ça, c'était des commandes indépendantes les unes des autres. Donc quand il y avait une manœuvre un peu difficile à faire, eh bien, il fallait agir sur toutes les choses à la fois. C'est ça qui a donné l'idée Ah, et Snow Peltery, parce qu'il a été confronté au même problème en pilotant lui-même son propre avion, il a dit à un moment, ben, j'y arrive plus, parce qu'il me faudrait quatre mains. Et donc, il faut que je trouve un système qui me permette de concentrer sur un seul organe l'ensemble des commandes de gouverne et des commandes de gaz. Ça s'appelle le manche à balai. Et l'autre bien connu, c'est Roland Garros. Il n'y a rien à voir avec le tennis, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il a traversé le premier la Méditerranée. En 1920, il est allé de la Côte d'Azur à Bizerte. Il est arrivé, il n'y avait plus d'essence dans le réservoir. Mais voilà, c'est le premier qui a réussi. Alors très rapidement, il est apparu que dans ce foisonnement d'activités, il fallait un petit peu structurer tout ça. Il fallait inventer des écoles de pilotage. Comment se sont faites les écoles de pilotage ? C'est tout simplement les constructeurs qui ont fondé eux-mêmes des propres écoles de pilotage. Une fois qu'on a fait des écoles de pilotage, ben, il faut attester le fait que les gens sachent piloter. Donc on invente le brevet de pilote. Les premiers brevets de pilote au monde qui aient jamais existé ont été faits en France. Et il commence par le numéro 1, et le numéro 1, c'est M. Blériot. Alors, il y avait un problème, au moment où on a mis les numéros, il y avait déjà une centaine de gens qui étaient brevetés de fait. Parce qu'évidemment, on ne voulait pas donner des brevets par des moniteurs, puisqu'il n'y avait pas de moniteurs. Les meilleurs pilotes, c'était ceux qui avaient déjà réussi à faire voler des avions. Alors, il y en avait 15. Qui était dans la première fournée, et on a dit comment on va attribuer les numéros. Alors là, les Français, bien astucieux, ont dit pour ne vexer personne, on va mettre les numéros par ordre alphabétique. C'est pour ça que M. Blériot est le numéro 1. Et cocassement, évidemment, les Wright sont le numéro 15, puisque le nom commence par W. Donc les Wright qui ont volé les premiers au monde ont le brevet de pilote numéro 15 et non pas numéro 1. Voilà. Et quelle est la structure qui porte ces brevets de pilote ? C'est l'Aéroclub de France dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une structure qui existait avant même que des avions volent. Et ensuite, eh bien, pour compléter la boucle, il faut des écoles pour apprendre comment faire des avions et comment accessoirement les piloter. Et ça s'est appelé Supero, ça a été fondé en 1909, c'est la première école supérieure académique, on va dire, qui concerne l'aviation, elle était faite en France. Alors ensuite, c'était l'inflation des records d'altitude, de durée, de longueur, de choses comme ça. Je vous fais grâce d'en faire la liste. Ce serait extrêmement fastidieux. On invente les meetings aériens. En particulier, il y a eu un très grand meeting aérien dans la région de Reims en 1909, où tous qui volaient à l'époque, non seulement des Français, mais des pays étrangers, sont venus se confronter les uns les autres. Et là, ça fait un impact médiatique tout à fait significatif vis-à-vis de la population et vis-à-vis à travers les journaux. Et les journaux étaient à l'époque riches et ont financé des prix pour battre des records. En clair, image de l'aviation extrêmement positive au niveau de la population. Voilà quelques noms de prix, on trouve toujours les mêmes. Deutsche de la Marge, Archdeck, et là j'ai mis, alors, c'est un peu kitsch, hein. C'est le prix Charles Schneider, c'est un des neveux de la lignée des Schneider, qui était passionné par l'aviation et qui a également financé les prix. Et Snow Peltery aussi. Alors, on va passer maintenant à la phase technique et scientifique. C'est à peu près à cette époque-là que l'essentiel de tous ces pionniers a dit « il faut quand même qu'on comprenne comment ça marche ». Pourquoi ça vole ? On constate que ça vole, mais quel est le mécanisme physique qui fait que ça vole ? Alors, on a fini par découvrir assez vite que ce qui fait voler les avions, c'est que l'extrado, c'est-à-dire l'extérieur, le dessus, la partie supérieure de l'aile, est en dépression, et c'est la dépression sur l'aile qui fait voler les avions. Vous savez tout ça ? Ouais, bon, non. Intuitivement, on pense que c'est la portance sous l'avion. Non, ce n'est pas la portance qui fait voler l'avion, c'est la dépression sur l'extrado, et qui est d'un ordre de grandeur supérieur à la poussée sur l'intrado. Alors là, je vous montre des magnifiques graphiques pour ingénieurs et scientifiques avec des formules et tout. Vous étudierez ça à la maison. Hein. C'est la loi de Bernoulli qui s'applique. Et donc, ben, vous connaissez tout ça. La portance ici, la traînée là. Il faut qu'il y ait le maximum de portance et le minimum de traînée. Donc, toute l'astuce, c'est de jouer sur l'angle et la forme de l'aile. Et voilà le champ de pression que l'on a sur une aile. Pour démontrer expérimentalement tout ça, il faut des machines d'essai. Et c'est là qu'on a pensé inventer les souffleries. Alors, qui a inventé les souffleries ? On sait maintenant que le premier inventeur de la soufflerie, c'est Tchaïkovski, dont je parlerai beaucoup plus tard, mais qui a fait ça dans sa cuisine au fin fond de la Sibérie. Donc ce n'était pas connu. Le premier qui l'ait fait, c'est bizarrement, c'est pas le premier, c'est celui-là, c'est M. Gustave Eiffel. Quelle idée saugrenue que M. Eiffel s'occupe de ça. Il n'a jamais volé dans des avions, des choses comme ça, il a fait la tour Eiffel. Mais il y avait un problème avec la tour Eiffel, c'est que la tour Eiffel, après l'exposition où il y avait eu beaucoup de visiteurs, il a fondé une société d'exploitation, et après la tour Eiffel était financée par les revenus, la billetterie. Et dans les années qui ont suivi, ça était passé de mode, et la tour Eiffel, ça plaisait plus aux Parisiens de base. C'était le métro, c'était le tramway, c'était ceci, c'était cela. Et donc, M. Eiffel, il y a eu des menaces pour démonter la tour Eiffel. Donc il faut que je trouve des astuces pour démontrer au pouvoir public que la tour Eiffel est très intéressante. Alors la tour Eiffel, qu'est-ce que c'est ? C'est un machin qui est haut. Eh bien, je vais faire des essais, par exemple, de chute libre, d'objets pour avec des petits planeurs, des modèles réduits, des machins comme ça. Puis ça ne suffit pas, ben, je vais faire une soufflerie en bas, au pied de la tour Eiffel. Bon. Quelle idée saugrenue de faire une soufflerie au bas de la tour Eiffel. Après, il l'a mise à Auteuil, mais c'est lui qui a inventé les premiers concepts de la tour Eiffel pour des raisons, on va dire, utilitaires. Vous savez que la tour Eiffel a été sauvée grâce au capitaine Ferrier qui a fait la TSF sur le haut de la tour Eiffel. C'est une autre histoire. Donc, après les années... ces technologies de soufflerie se sont bien améliorées, sophistiquées, et on sait comprendre maintenant beaucoup plus ce qui se passe avec des images modernes, vous voyez, d'écoulement, les couches turbulentes, les couches laminaires, les histoires de murs du son, le décollement des veines, etc., le laminaire, le turbulent. Je ne rentre pas dans le détail, sinon on y passerait toute la conférence. Alors c'est là que je vais vous raconter à nouveau l'histoire des trois noms magiques que j'ai déjà évoqués, Charles Renard. Alors pour ceux qui ont fait des études d'ingénieur, les séries Renard, ça vous dit quelque chose. C'est lui. Charles Renard, c'est un polytechnicien qui a fondé le Chalet-Meudon, la compagnie d'aérostiers, l'atelier d'aérostiers pour la... Et donc, qui a fait des tas de choses, et entre autres, ce système des séries Renard. Et... Le deuxième de la bande, c'est celui-là, c'est Ferber. Je ne l'ai pas mis là-dessus. Oui, Ferber. Ferber, je l'ai montré, le capitaine Ferber qui s'était tué en 1918. Il avait envie de voler, lui. Et il était militaire, donc les militaires, sa hiérarchie, l'empêchaient de faire ce qu'il voulait. Donc il a demandé à quitter l'armée, et il a demandé de quitter son corps et d'être affecté dans l'équipe de Charles Renard. Et il a fait beaucoup avancer la compréhension technique du fonctionnement des choses. Et le troisième, c'est Kako, dont j'ai parlé. Donc Kako, c'est la troisième génération, qui lui a également été affecté à Chalais-Meudon et qui a continué tout le travail qu'avait commencé le capitaine Ferber. Et c'est lui qui, au bout du compte, a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ONERA. Vous avez déjà entendu ce sigle-là, l'Office National des Études et Recherches sur l'Aéronautique, qui existe toujours à Paris. Voilà, alors ce que je montre ici, ce sont les gens qui ont fait de la mécanique des fluides, puisque la physique qui est mise en œuvre dans l'écoulement de l'air autour de l'aile, c'est la mécanique des fluides. Alors, pour les scientifiques, il y a peut-être des noms qui vont vous aider. C'est Prandtl, le nombre de Prandtl, citez, levez la main si vous savez ce que c'est. Vous avez déjà entendu ce nom-là. Voilà, il y en a quand même quelques-uns. Bon, ça me rassure. Donc, son élève, c'est notre ami von Karman, un Hongrois qui était son thésar et qui ensuite a émigré aux États-Unis et qui a en particulier compris, voilà, les écoulements de von Karman, voilà l'instabilité, et c'est ce qui fait vibroter le bout des ailes quand de temps en temps vous voyez que ça secoue un petit peu. Voilà. L'instabilité de l'écoulement au bout des ailes. Alors, tous ces gens-là, ils ont fait leurs études et le machin à Göttingen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Göttingen. Göttingen, c'est une petite ville d'Allemagne qui a 130 000 habitants, qui est la Mecque de la mathématique en Allemagne. Tous les grands scientifiques allemands sont passés par Göttingen, ne serait-ce que Einstein, par exemple, ou Max Planck, etc. Göttingen, pour vous situer la taille de c'est couplé, jumelé avec Pau. Imaginez qu'il y ait une université mondialement connue à Pau. Si ça existait, ça se saurait. Voilà. Mais à Göttingen, ça existe. Et Mach, bien sûr. Mach, c'est le nombre de Mach, c'est-à-dire le moment où la vitesse d'écoulement dépasse la vitesse de déplacement du son dans l'écoulement. Et là, j'ai mis, vous avez peut-être vu ça sur Internet, des photos récentes de la NASA qui est en fausse couleur, qui ont permis de montrer des ondes de choc sur des chasseurs bombardiers. Alors ça, c'est bien, on a vu l'aile indépendamment, mais il y a un autre problème, c'est la stabilité dynamique de l'avion. Et donc, et c'est là qu'Ader s'est un petit peu cassé les dents. Et voilà toutes les forces qui agissent sur l'avion, c'est très compliqué. Et tout doucement, aussi bien expérimentalement que théoriquement, les ingénieurs ont avancé dans la compréhension de tous ces phénomènes. En particulier, c'est un peu comme sur les bateaux, il y a un centre de poussée et un centre de gravité. Et ce centre de gravité, on n'a pas toujours la possibilité de le mettre où on souhaiterait qu'il soit, parce qu'il y a le poids du moteur, la taille du moteur, où est la cabine de pilotage, où sont les réservoirs, tout ça c'est très compliqué. Alors voilà les différents mouvements que peuvent avoir un avion, en plus avec des choses qui bougent, hein. Donc le roulis, le tangage et le lacet. Voilà, et vous voyez que pour agir là-dessus, vous voyez les petites, ce qu'on appelle les ailerons, les dérives ici, qui bougent pour. Et quel est le mécanisme qui déclenche cette chose-là? Le manche à balai, le manche avant-arrière et le palonnier, donc avec les deux pieds. Mais il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, puisque lui, il le pratique. Alors, on a parlé de l'aile, on a parlé de l'avion, maintenant il faut un moteur. Et très rapidement, tout à fait au début du XXe siècle, on a compris, par des calculs et quelques expériences, qu'il fallait au moins un dixième du poids de l'aéronef en traction pour que le mécanisme de portance se manifeste. Donc, pour qu'il y ait un dixième de, il faut qu'il y ait une hélice qui soit efficace, mais surtout qu'il y ait un moteur qui soit suffisamment puissant et pas trop lourd. Donc, une des contraintes, c'est ce qu'on appelle la puissance spécifique. Combien de kilos de mécanique faut-il pour avoir tant de chevaux, etc., etc. Et évidemment, au début de la motorisation, eh bien, les puissances spécifiques étaient faibles, et c'est pour ça que les avions avaient beaucoup de mal à voler et à s'envoler. Pour augmenter cette puissance spécifique, on a utilisé des technologies, par exemple, d'utiliser les carters en dural humain pour que le moteur soit moins lourd. On a multiplié les cylindres, j'y reviendrai, et on a essayé différents systèmes de refroidissement du moteur. Voilà les noms des... Alors j'ai redit les noms des écoles. Alors voilà des exemples de moteurs. Les tout premiers moteurs qui ont été utilisés sur les premiers avions, il y avait deux constructeurs. C'était Antoinette, entre autres qui a été utilisé par Hubert Latam. Donc c'est des moteurs en V, vous voyez, comme ça. Et Anzani. Anzani, c'était un constructeur de petites motocyclettes et qui avait fait un petit moteur à trois cylindres, comme ça. Et le Blériot avait un moteur Anzani parce qu'il avait une puissance spécifique supérieure aux autres. Surtout, il était plus fiable. Ah voilà, autre solution, et ça c'est aussi Esno Pelteri qui a inventé ça, dit pour augmenter la puissance, ben, je vais multiplier le nombre de cylindres. Évidemment, chaque cylindre apporte sa contribution au couple qui est généré par le moteur. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais c'est, y a deux versions de cette chose-là. Là, le carter est fixe et le vilebrequin tourne avec l'hélice. Mais il y a un autre système qui fait l'inverse, c'est-à-dire on met le vilebrequin fixe et c'est le carter qui tourne comme ça. Alors, et en particulier, c'était la société Gnomeron. Voilà. C'est ce moteur-là qui a eu un certain succès avant la guerre 14 et jusqu'à la fin de la guerre 14. Et on va citer un autre motoriste qui est important, c'est Hispano Suiza. Vous avez déjà entendu ce nom-là, Hispano Suiza. Qu'est-ce que ça veut dire, Hispano Suiza? Hispano, ça veut dire l'Espagne, et Suiza, ça veut dire quoi? Ça veut dire la Suisse, tout bêtement. Espagne, Suisse, en espagnol. Si vous voulez, ça veut dire ça, Hispano Suiza. Alors pourquoi Suisse? Tout simplement parce que M. Birkitt est Suisse. Il est né à Genève et il a fait toute sa carrière dans cette société. D'ailleurs, il est devenu président de la société Hispano-Suiza qui existe toujours actuellement, je rappelle. Donc, ils ont tout fait, mais en particulier, c'était essentiellement des moteurs en V avec beaucoup de cylindres. Voilà. REP également. REP, donc Renault Esno Pelteri, donc comme c'est imprononçable, on l'a appelé très rapidement REP, hein, et donc la société REP, aujourd'hui encore, elle existe toujours, elle ne fait plus rien dans l'aviation, mais elle existe toujours. Clergé, qui est une société, enfin un motoriste qui est venu dans l'entre-deux-guerres, qui a continué les travaux un petit peu de ces motoristes avec les moteurs en étoile. Ah voilà, je reviens au développement des souffleries. Voilà. Alors, on a l'impression, je n'ai parlé que de la France. En France, tout se passe, tout vient de la France. Et bien évidemment, quelques années après, dans tous les pays développés, des choses équivalentes à ce qui se passait en France sont apparues. Alors, aux États-Unis, c'est la Smithsonian qui a fait ça. Vous connaissez tous la Smithsonian. C'est une organisation, comment dire, culturelle, voilà, on va dire ça comme ça, qui finance des musées. Vous savez, à Washington, il y a toute la lignée des musées qui est financée par la Smithsonian parce que monsieur Smithson était riche et a donné sa fortune pour faire le développement de cette chose-là. Mais très rapidement, ça a également financé des choses scientifiques. et qui s'appelle Naka. Si, ceux qui ont fait un peu de profil Naka, hein, National Aéronautique, je ne me souviens plus ce que ça veut dire. Et puis cette Naka s'est transformée en 1958, hein, ainsi que tout le monde maintenant connaît, qui s'appelle la NASA. C'était l'origine de la NASA. NASA, comme on dit en anglais, ce qu'on prononce en anglais. Alors, l'ACA, c'est en Angleterre. Ava, c'est Göttingen, bon, je vous l'ai déjà dit, c'est en Allemagne. Et le Tsagi, alors, Tsagi, c'est l'équivalent russe de l'institut, si vous voulez, qui fait des recherches dans les souffleries. Ça existe toujours, la Tsagi. Hein? Alors, en russe, les sigles, il y a des minuscules en russe. Alors, je vais m'attarder un peu plus là. Voilà, il faut que j'accélère. Quelle a été l'influence, je reviens un petit peu sur les hommes, d'une part des pouvoirs publics et d'autre part des militaires? Je vais faire court, médiocre ou mauvaise, en particulier en France. Alors, j'ai mis que les bons ici. Alors, j'aurais dû mettre la liste des mauvais qui ont freiné et qui ont empêché le système de fonctionner. Mais je veux être positif. Donc, dans les politiques, j'ai eu du mal à trouver. Donc, Ader, alors je le montre ici parce qu'on le montre toujours en photo âgé. Donc voilà le look qu'il avait quand il a fait ses avions. Et l'autre, c'est le colonel Ferber, dont j'ai déjà parlé. Alors, dans les politiques, je vais quand même continuer sur l'armée. L'armée a beaucoup perturbé le processus de développement des avions, aussi bien avant la guerre 14 que dans l'entre-deux-guerres. J'y reviendrai. Pourquoi ? Parce que dès que la technologie était connue, l'armée pondait un cahier des charges. Évidemment, c'est moi l'acheteur, donc je ponds un cahier des charges, qui était toujours inaccessible avec les technologies de l'époque. Et donc, les gens s'acharnaient à essayer de complaire à ces cahiers des charges, et on n'y arrivait pas. Et ça faisait dépenser des sommes de recherche et développement faramineuses. Ça a été particulièrement vrai dans l'entre-deux-guerres. Ader a arrêté parce que les cahiers des charges qu'on lui avait imposés, déjà, en 1880, étaient trop exigeants par rapport à ce que Ader était capable de faire. Les politiques, alors c'était encore une période où il y avait encore un petit peu des ingénieurs et des scientifiques dans le personnel politique, chose qui a complètement disparu, vous le savez, depuis la guerre 39-45. Si on a des problèmes, ce n'est pas complètement étranger à ce phénomène-là. Oh, j'en ai trouvé deux, donc que je classe dans les bons. Loucheur, Big Moustache. Hein, Loucheur qui a été... on connaît plus ou moins... Vous avez déjà entendu parler de la loi Loucheur. La loi Loucheur, c'était la loi qui a institué les premiers HLM. Hein, mais dans les années 20, 28 ou quelque chose comme ça. Mais il a, comme dans la Troisième République, les gens changeaient de ministère tous les 3 mois, donc il les a tous faits. Donc Loucheur, entre autres, il est pendant la guerre 14-18, il était ministre de l'armement, et il a eu un rôle positif pour combattre les pesanteurs de ce qu'on appelait à l'époque, on ne disait pas la technocratie, on disait les bureaux. Voilà, c'est de la faute des bureaux. Voilà. Et celui-là, alors, c'est le quiz, vous le reconnaissez, c'est Paul Painlevé, qui a été entre autres président du Conseil pendant la guerre 14-18, et qui, lui, c'est un normalien supérieur, mathématicien, et qui a beaucoup fait pour le développement. En particulier, il a aidé Eiffel à faire que sa soufflerie se fasse au pied de la tour Eiffel. C'était toute la même... le même groupe, si vous voulez, de gens qui se connaissaient. Alors, on vient donc sur la technologie. Donc là, j'ai trouvé une petite animation sympathique qui explique comment marche un manche à balai. Voilà. Alors, ce manche à balai, donc, il est breveté par Hénaud Pelletri, et il l'a toujours réactualisé, et il a passé le reste de sa vie à ferrailler avec les avocats américains. Il a même battu devant la Cour suprême l'État américain, c'est-à-dire l'État américain contre M. Hénaud Pelletri. L'État américain a accepté l'idée qu'il y avait une violation de brevet dans les années 30. Et il a gagné. Alors, après, il fallait déterminer les indemnités. Évidemment, il avait toujours beaucoup moins que ce qu'il espérait. Il a dit, ben, si vous voulez avoir plus, vous faites un tour de piste et vous passez devant la Cour suprême. Donc, il a évité cette chose-là. Le palonnier, on explique bien, sans que c'est la dérive arrière. Les moteurs en étoile, j'insiste sur le carburateur membrane et l'injection d'essence. Quand on a eu des chasseurs pendant la guerre 14-18, je pense que vous allez un peu développer ça dans votre conférence, l'avion il n'est pas toujours à l'horizontale. Donc je rappelle un carburateur, il y a un réservoir avec un petit pointeau. Quand l'avion, à l'époque on n'osait pas faire de looping, mais ne serait-ce que des manœuvres un petit peu compliquées, bah, évidemment le réservoir ça ne marche pas bien. Donc il faut des systèmes qui permettent à l'injection d'essence de pouvoir se faire le mélange essence, atmosphère, air, puisse se faire dans toutes les assiettes de l'avion. La bonne solution, c'est l'injection d'essence, bien sûr. Autre innovation, c'est que les ailes soient faites avec une structure en longeron et en section comme ça. Alors ça c'est un dessin moderne, mais très rapidement, dès la fin de la guerre 14-18, on est arrivé à des conceptions de ce type-là. La cellule autoportante, donc avant on avait un châssis et puis on entoilait le châssis, et l'idée de pouvoir faire une coque, c'est un petit peu comme l'automobile, est sortie, c'est de Père Dussin qui a fait ça dans les années 20. L'utilisation du duralumin, les Allemands, le Junkers J1. Voilà les premiers constructeurs, je les ai cités, Antoinette, Voisin, Rep, Blériot, Caudron. Caudron, c'est un truc rigolo. Caudron, c'était des coureurs cyclistes. Ils étaient deux frères. Et ils ont gagné des tas de prix de coureurs cyclistes. Après, ils sont devenus coureurs automobiles. Ils ont eu des accidents, puis après, bon, moi, je m'arrête, et bien je vais faire des avions. Des fous furieux. Hein. Mais bon, voilà. Potez, c'est le grand pote à Bloch, vous savez qui c'est Marcel Dassault, donc j'en dirai plus tard. De Père Dussin et la TECOR, c'est donc les deux fondateurs des sociétés qui sont à l'origine du fait que Toulouse soit la ville, la capitale de l'aéronautique en France. Donc la TECOR, c'était un industriel, ses parents avaient des scieries dans le Pays Basque et il s'est installé dans la région et il a fait les premières usines dans la région d'assemblage dans la région de Toulouse. Mais il fera d'autres choses après. De Père Dussin. C'était Mimille, main de fer, je crois que c'était son surnom. C'était un dur, un si dur qu'il a beaucoup fricoté avec Vichy et qu'il a été déchu de sa nationalité française parce qu'il avait un petit peu aidé avec les Allemands devant la Deuxième Guerre mondiale. Morane Saunier, c'est aussi des ingénieurs. Saunier, c'est un ingénieur de centrale, Nieuport. Et SEA, Potez Bloch. Donc, on verra beaucoup d'associations entre les deux. Pourquoi Potez et Bloch ont fait Super-Héros la même année, en 1911 ou 1912. Et donc, ils étaient copains d'école. Voilà des noms de constructeurs étrangers. Donc, Otto. Junker, donc c'est un nom qui dit quelque chose, Lohner Werke, et Sikorsky. Alors Sikorsky, c'est un russe, mais qui a émigré rapidement aux États-Unis. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc la Première Guerre mondiale, je laisserai l'exposé de Jacques Foléas qui va vous raconter tout ça dans l'intime détail. Et je veux simplement signaler, c'est là que le mythe de l'as s'est implanté. C'est-à-dire l'aspect un peu chevaleresque de l'as, de la chasse, qui a abattu tant d'avions ennemis, etc. Et donc ils ont une aura absolument extraordinaire dans le public. Alors, revenons à la technique. Dès la fin de la guerre, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des problèmes, c'est que toute la navigation était à vue, et quand c'est la nuit, quand il y a du mauvais temps, du brouillard, du machin, des trucs, et bien, on n'y voit rien, et on aurait besoin d'aide à la navigation. Et donc c'est là que toute l'instrumentation de base qui existe maintenant dans les avions est apparue. Donc, je cite les instruments de base, l'altimètre, il faut savoir à quelle altitude on est, il est basé sur la mesure de la pression atmosphérique, qui est corrigée au niveau de la mer. L'anémomètre, c'est une mesure de la vitesse, le badin, c'est l'ingénieur, un des ingénieurs qui a été formé à SUP Aero, mais qui utilise ce qu'on appelle le tube de Pitot, qui est ce machin-là. Cette sonde là où on fait la différence entre la pression dynamique et la pression statique. Et c'est transformé en, avec un écran, une petite aiguille. Le variomètre, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on monte ou on descend dans l'avion. L'horizon artificiel, alors ça c'est très pratique quand on voit ni l'horizon ni qu'on voit rien, donc on sait comment on se situe par rapport au sol. Et l'indicateur de virage et de dérapage, quand on n'a aucun repère visuel à l'extérieur, c'est toujours bien pratique d'avoir sur son tableau de bord ces indications. Alors, deuxième conférence, donc, la naissance de l'aviation commerciale entre les deux guerres. Pourquoi il y a eu l'aviation commerciale entre les deux guerres? Tout simplement parce que, pour des raisons économiques. À la fin de la guerre, toutes les armées arrêtent les commandes d'avions militaires, bien évidemment. Et tous les constructeurs qui sont là, qui ont des ouvriers, des usines et des choses comme ça, n'ont plus rien à faire. Donc comment survivre? Comment survivre? Eh bien, il faut que je fasse une activité commerciale avec des avions. Qu'est-ce que je peux faire? Première idée, je vais transporter du courrier. Parce que là, on paye le port, etc. Je vais transporter du courrier. Deuxième étape, je vais transporter des passagers. Et là, c'était juste le seuil du moment où la taille des avions permettait d'avoir quelques passagers, évidemment avec un prix du billet qui était astronomique. Et donc, il y avait une clientèle très riche qui était capable de payer. Et donc, c'est là que l'aviation commerciale a débuté. Toutes les compagnies d'aviation commerciale sont le fait de constructeurs d'avions militaires. Ce n'est pas apparu ex nihilo. Et en plus, pour achever la bête, il y a une loi qui avait été votée en 1916, qui était l'impôt de guerre, qui avait dit, les députés, dans leur grande sagesse, « Oh, cette industrie de guerre abominable, mais dont on en a besoin pour avoir des avions, fait des profits scandaleux avec l'argent public, donc on va les tailler en pièces au niveau de la taxation après la guerre. Donc après la guerre, il y a trop d'impôts et il n'y a plus de commandes. Donc il faut s'en sortir. D'ailleurs, il y a beaucoup de compagnies qui ont disparu et celles qui ont subsisté, c'est celles qui avaient fait des lignes d'aviation. Voilà. Alors, une ligne mythique, c'est évidemment l'aéropostale. L'aéropostale, c'est la TCOR qui a inventé ça, qui a commencé par aller en Espagne, ensuite au Maroc, ensuite en Mauritanie, ensuite au Brésil, et franchir la cordillère des Andes. Et là aussi, le mythe de l'as a été mis en exergue avec des mermoz, et des Saint-Exupéry qui ont fait des œuvres littéraires magnifiques, le Petit Prince, des choses comme ça, qui ont magnifié finalement toute cette aventure. Ça a duré que 10 ans. En 1931, l'aéropostale tombe en faillite et c'est l'État qui reprend tout ça et c'était le noyau autour duquel on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui Air France. Fin de la guerre. La France est le premier constructeur d'avions. Le premier constructeur d'avions au monde. La France a construit 52 000 avions et 90 000 moteurs. 52 000 avions, c'est les deux tiers des avions qui ont été utilisés. Et tous les avions qui ont été pilotés par des Américains étaient des avions français. Il n'y avait pas d'avions américains, il n'y avait aucune industrie militaire américaine avant 1918. OK ? Alors voilà les constructeurs qui vont se mettre en évidence au niveau commercial dans l'entre-deux-guerres. Alors là, je n'ai pas résisté au plaisir de mettre Marcel Dassault, mais Bloch, dans sa jeunesse, et vous le voyez, un super-héros, en train de tracer des trucs au tableau. Donc il était jeune et beau. Et voilà un de ses avions. Potez, c'est son double. Ils ont fait des sociétés ensemble. Caudron et Renault Caudron. Caudron, j'en ai parlé tout à l'heure. Farman. Alors celui-là, j'en ai pas parlé. Farman, c'est aussi de la lignée des Ardec. Farman, c'est un gentleman anglais qui était. Ses parents étaient diplomates en France. Ils avaient de l'argent et il s'est mis à faire des avions. Et donc, il a eu beaucoup de succès dans l'entre-deux-guerres. Et voilà les deux Toulousains dont j'ai parlé tout à l'heure, de Voitine et Latécoère. Alors, j'en mets une petite couche sur Marcel Dassault quand même. On pourrait faire une conférence complète sur Marcel Dassault. J'ai juste une planche. Donc, il fait super-héros. Il invente, enfin, il dessine plus exactement l'hélice éclair. C'est l'hélice qui sera adoptée sur tous les avions durant la. C'est une hélice profilée qui est faite en bois. Et dont toutes les sections sont bien faites. Et le problème, vous savez que Marcel Bloch, vu son nom, il était d'une famille juive, et il était dans le quartier Saint-Antoine à Paris, et dans son réseau personnel, il y avait beaucoup d'ébénistes. Et toutes les hélices des éclairs qui ont été faites par les ébénistes du quartier Saint-Antoine. Et lui-même vérifiait avec des gabarits que le profil de l'hélice éclair était bien fait. Et effectivement, c'était la plus performante. Vous avez vu, je pense que vous avez fait attention, l'avion de Hénaud Pelletri, les hélices, c'est des bouts d'alu sur des éléments de métalliques autour de l'hélice. C'est pas du tout profilé. Hein. Voilà. Et donc, après la guerre, il a arrêté de faire des avions, il a recommencé à en faire, Société des avions Marcel Bloch. Et en 1937, il a nationalisé, j'y reviendrai. Il est arrêté plusieurs fois pendant la guerre, et in fine, il est arrêté par la Gestapo, il est déporté à Buchenwald. Il est de santé fragile, et il a été sauvé par les réseaux communistes. C'est Marcel Paul qui était dans le même camp que lui, qui lui ont permis de survivre. En remerciement de ce service, Marcel Dassault a toujours financé le Parti communiste jusqu'à sa mort. Et d'une façon publique. Il l'a dit d'une façon très claire. Donc vous le reconnaissez là dans ce vieillard, il est mort très âgé. Hein. Et donc il a changé de nom à la Libération, parce que bon, il était trop connoté. Et Dassault, ça vient de quoi ? Ça veut dire Charles Dassault. Et c'était le nom de résistance de son frère, Darius Bloch, qui était commandant dans la résistance, et dont un des pseudonymes était Charles Dassault. Donc il a utilisé ce pseudonyme comme patronyme. Voilà. Alors, les équivalents en Allemagne, Messerschmitt, donc c'est des noms que vous connaissez, Henkel, De Havilland, Handley, Rolls-Royce, Avro, Schorbrother, donc en Angleterre, et parlons des Américains. Donc, vraiment, celui qui est à l'origine de toute la lignée, de tout ce qui existe aux États-Unis, c'est vraiment Boeing. Alors, Boeing, comme son nom ne l'indique pas, c'est encore un patronyme allemand. Et il est d'une famille d'origine allemande et qui a fait fortune, alors lui, il a fait fortune et ses parents aussi, dans l'industrie de forestière, dans l'État de Washington, donc vous savez, celui qui est complètement à l'ouest, aux États-Unis. Donc c'est pour ça que Boeing est à Seattle, parce que c'était le lieu où il travaillait. Donc ben, il a fait comme tous les autres, il a dit « j'ai vu les premiers avions voler, l'aviation c'est un truc d'avenir, donc j'arrête l'exploitation forestière », c'est exactement comme Elon Musk. Et je change complètement de domaine et je fais des avions. Il a fait des avions, ça a tellement bien marché qu'il a été contraint de faire la même chose qu'en Europe, c'est-à-dire de faire des lignes commerciales qui ont eu un certain succès, et la loi antitrust dans les années 30 a dit « ça suffit comme ça, il faut séparer la ligne aérienne du constructeur d'avions ». Et donc, vous avez Boeing Aircraft, donc, qui existe toujours aujourd'hui, et la compagnie qui est issue de ça, c'est la compagnie, si vous allez aux États-Unis, s'appelle United, qui est issue de la scission de la compagnie Boeing. Les autres, ben, vous connaissez les noms, hein, les Lockheed, Douglas, Vought et United, ben, j'en ai parlé, Pratt & Whitney, c'est les moteurs. C'est venu tout de suite dans la foulée, mais ces gens ont copié le parcours finalement de Boeing. Je cite alors les Italiens, Fiat bien sûr a été dans le coup, mais je cite Caproni. Caproni, il était dans la mouvance des voisins et tout, c'était un carrossier qui travaillait à Paris. Et tous les avions français qui ont été faits, ils ont passé à un moment ou à un autre chez Caproni. Et après, il a fondé une société italienne d'avions. Ah, voilà les Russes. Bon, les noms magiques. Tupolev, Ilyushin et Sikorsky. Donc Sikorsky, qui s'est spécialisé dans les hélicoptères et qui a immigré aux États-Unis. Alors, on arrive à la nationalisation. Je ne sais pas si M. Lyonnais va parler de ça, parce que ce n'est pas le sujet, c'est l'aviation commerciale. Ça, c'est l'aviation, on va dire, de guerre, entre les deux guerres. Je rappelle qu'en 1936, vous le savez tous, le Front populaire a gagné les élections, et donc il faut nationaliser, puisque c'est vraiment une indécence que des industries de guerre soient dans les mains de privés. Alors ça, c'est l'aspect idéologique. Par contre, il y a l'aspect industriel, et le ministre de l'air, hein, c'est Pierre Caux, c'est un nom qui est connu, hein, Pierre Caux, qui a organisé tout ça, et donc il a fait toutes ces sociétés dont j'ai mis les sigles ici, et qui a essayé de regrouper le moins mal possible toutes ces sociétés. Pourquoi il y avait tant de sociétés? Tout simplement parce que c'est le particularisme gaulois, en disant chacun vende son propre produit et veut tirer la couverture à lui, mais également par le fait qu'il y a eu une grande polémique au début des années 30, c'est-à-dire c'était ce qu'on appelait la politique des prototypes. On voyait bien que la guerre allait arriver, même dès le début des années 30, même avant l'arrivée d'Hitler. Donc les politiques en France disaient, ben, il y a deux solutions, soit je fais une industrie de masse pour pouvoir produire en masse des avions de guerre, soit je fais des prototypes. Pourquoi faire des prototypes? Et le tenant de la politique des prototypes, c'était Kako, en disant l'évolution technologique est tellement rapide que si on fait une production de masse, les avions qui sortiront seront dépassés au moment où on aura besoin de les utiliser. Donc il faut qu'on soit toujours à la pointe, et le jour où le conflit démarra, eh bien, on aura les avions performants dans le conflit à venir. Je résume. Alors, malheureusement, une fois de plus, cette polémique est arrivée dans la presse, et la presse a critiqué extrêmement violemment, aussi bien dans les journaux qu'à la Chambre, la politique des prototypes et la politique de Kyoko, en disant c'est pas ce qu'il faut faire, il faut produire des avions. Mais bon, ces subtilités sur l'évolution technologique n'étaient pas perçues par les journalistes. En fait, c'était le bazar, quoi, pour faire court. Donc je passe à... Voilà les noms des compagnies aériennes entre les deux guerres. Alors, juste une petite remarque. Seuls trois pays, c'est-à-dire la France, la Russie et l'Allemagne, pour des raisons différentes, ont fait une compagnie nationale entre les deux guerres. Lufthansa, c'est Göring qui l'a faite, mais pour des raisons qu'on peut comprendre, des raisons militaires. Air France, c'était fait tout simplement parce que c'était un tel bazar qu'il fallait regrouper les débris des compagnies qui existaient. Et puis la Russie, ben, c'est le système soviétique. Voilà. Par contre, dans les pays Italie et surtout Angleterre, qui sont libéraux au sens anglo-saxon du terme, l'idée d'avoir une compagnie nationale elle, paraît complètement farfelue. Hein. Et voilà, alors ça, j'ai eu du mal à le trouver, ça, j'ai trouvé ça à la bibliothèque de la société des ingénieurs des X. C'est une reconstitution de la production d'avions de guerre avant la guerre, et voilà, ben, en France, on a perdu la guerre là. 1938, la production d'avions n'a pas augmenté, le démarrage de la production d'avions, timide, ne date que de la débâcle, on va dire. Donc, en clair, on n'avait pas d'avions en quantité suffisante pour faire face. Il n'y a pas que ça, mais disons, ça y a contribué. Et ça, c'est lié à, en fait, la désorganisation liée aux nationalisations qui ont fait que le temps que les gens se mettent d'accord entre eux pour mettre tout ça en place, eh bien, il a fallu un an et demi pour que ça se décante. Au contraire des pays, l'Allemagne, elle est là, la France est là, ok. Mais les USA, qui étaient isolationnistes et qui n'avaient pas l'intention d'aller dans le conflit, vous voyez, avaient quand même anticipé la chose. La Grande-Bretagne, bon, elle était plus près, la Grande-Bretagne en 39, bon, au moment de la débâcle, bon, elle est là, la France est là. Ok. Donc, je repasse la main à Jacques Folléas qui vous parlera de tout ce qui s'est passé pendant ce conflit. Et donc, je reviens sur la technologie. Qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? Les moteurs en étoile, qui avaient eu leur heure de gloire, ont disparu. C'est le Super Constellation qui était le dernier grand avion de ligne qui avait des moteurs en étoile. Pourquoi ? Tout simplement parce que les turbopropulseurs sont arrivés à ce moment-là. On a inventé l'hélice à pas variable, on a donc les jets et les turbopropulseurs. Alors, cette histoire de turbopropulseurs, j'ai cité Coanda, qui a été rapidement oublié. Ensuite, le gars qui a vraiment conceptualisé là-dessus, c'est un Anglais, une fois de plus, Whittle, dans les années, début des années 30, le voilà, et qui avait fait un système qui était mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des compresseurs à piston qui alimentaient, c'était un peu le système Coanda, mais amélioré. Puis très rapidement, s'est passé au compresseur axial. Et ceux qui l'ont mis en œuvre, ce sont les Allemands, Hans von Rohe et le Heinkel. Donc vous voyez, les développements, ça date juste de la veille de la guerre. Les Italiens également, Company Caproni. Le Gloster, voilà le premier avion anglais qui, comme on disait à l'époque, les avions sans hélice, c'est délicieux, ça, comme appellation. Et puis le Messerschmitt, mais qui n'est arrivé qu'en 1945, donc les avions à réaction n'ont pas eu un impact significatif sur l'issue du deuxième conflit mondial. Et là, voilà ce qui s'est passé, donc après la Seconde Guerre mondiale, on va dire, voilà toute, c'est la guerre froide, donc il y a des crédits qui se déversent à millions et à milliards sur toute l'industrie aéronautique militaire, et voilà tous les types d'avions qui apparaissent. Le Comet, on en dit deux mots. Il a eu des problèmes parce que la localisation de ses turbos dans la voilure donnait un point de faiblesse et il y a eu plusieurs accidents mortels de crash de Comet et cet avion a été abandonné. Et on a conservé la nacelle en avant comme ça sur tous les avions comme on les connaît maintenant. Le Concorde et le Tupolev, je n'en dis pas plus. Une étape importante, c'est le mur du son. Le mur du son, pourquoi ça a de l'importance? Tout simplement que les gens qui avaient piloté les avions s'étaient rendus compte, quand on approchait de la vitesse du son, qu'il se passait des choses bizarres. C'est-à-dire, les commandes ne répondaient plus, c'était bizarre. Donc, il faut absolument qu'on arrive à le passer le plus vite possible. Et donc, celui qui y est arrivé, c'est ce Chuck Yeager, 1947, sur cet avion, on va dire quasiment presque un avion fusée, le Bell X-1, qui a été lancé sous l'aile d'un bombardier. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'onde de choc? Eh bien, c'est le fait qu'on a ce phénomène-là, c'est-à-dire la vitesse d'évolution du son est inférieure à celle de l'avion. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais on a beau déverser des milliards dans le tuyau, ça ne fait que complexifier les avions et à les rendre plus chers. Donc, il y a quand même des gestionnaires, ici ou là, qui existent. Eh bien, on fait des avions de plus en plus sophistiqués, mais comme ça coûte cher, ben on en fait moins. Hein. C'est aussi simple que ça. Et on va essayer de faire des avions un petit peu... d'une part spécialisé, mais d'autre part mixte au niveau de l'utilisation. Par exemple, des chasseurs-bombardiers. Alors voilà quelques exemples. Les avions espions. Bon, on en a parlé, le fameux U-2 qui s'est fait descendre au-dessus de la Corée. Des avions d'observation à très haute altitude. Les bombardiers stratégiques, bien ça c'était le Strategic Air Command. Donc là, vous voyez, là on n'a pas fait dans la dentelle. On a 4 nacelles avec 2 turboréacteurs, et ça a des rayons d'action énormes. Les chasseurs bombardiers de différentes formules, les avions de surveillance qui existent toujours, vous les voyez au défilé du 14 juillet, là les avions radar longue distance. Vous avez les avions ravitailleurs, puisque ces petites bestioles là, qui sont des chasseurs bombardiers, ça s'use du kérosène à vitesse grand V. Et n'ont pas le rayon d'action qui leur permet d'aller où ils souhaitent aller. Alors, une des solutions, c'est d'utiliser, bien sûr, les porte-avions pour les approcher au plus près du théâtre d'opération. Les avions de transport de troupes, l'avion maudit, l'A400M, qui est développé par Airbus avec beaucoup de difficultés, et, en particulier sur les moteurs, et puis ça, c'est un des gros, c'est le... Celui, c'est le Super Galaxy. Ce n'est pas le plus gros des avions, c'est l'Antonov. Alors, j'ai mis celui-là, donc, qui a un gros ventre, qui permet d'emporter des charges très lourdes et très volumineuses. Et les hélicoptères de combat et de transport. Voilà. Alors, voilà, donc il faut... alors, un problème, quand ça coûte très cher, eh bien, chaque pays, sauf les États-Unis, n'a plus les moyens de se payer sa propre flotte. C'est le cas typique du Rafale. Donc il faut essayer de vendre sa camelote aux autres. On hurle toujours qu'on vend des armes aux autres. On les vend parce que pour avoir les nôtres, hein, pour rentabiliser, enfin amortir plus exactement, les coûts de développement sur une série plus longue. On se couple avec le machin, et donc on va arriver aux fusées. Très rapidement, on voit qu'au niveau de l'aviation traditionnelle, on est un petit peu au taquet, et l'outil maintenant guerrier de base, c'est la fusée. Alors, je cite Tsiolkovsky, voilà, je vais y arriver, qui est un obscur instituteur russe qui travaille à 100 km au sud-ouest de Moscou et qui, tout seul comme un grand, développe la première soufflerie dans sa cuisine développe l'équation qui détermine le fonctionnement des fusées. Donc la variation de vitesse, c'est la vitesse initiale, logarithme de la masse initiale sur la masse finale, moins la gravité. Voilà. Et cette formule-là, M. Elon Musk, dans SpaceX, il l'utilise toujours, parce que c'est la formule, voilà, pour aller sur la poser des satellites. Et en appliquant cette formule avec des nombres réels, on s'aperçoit qu'on a intérêt à faire des fusées à étage, pour ne pas emporter tout le carburant pour monter sur un seul élément. Donc deux ou trois étages. C'est lui qui a inventé le concept des fusées à étage. Alors qu'il avait... il enseignait les maths dans une école profonde, de la Russie profonde. Celui, le premier qui a réussi à faire technologiquement une fusée qui marche, c'est Robert Goddard, donc, son nom a été donné au Jet Propulsion Laboratory, voilà, 1932, et le mythique Werner von Braun, qui est l'inventeur des V1 et des V2, et on a su, après qu'il était capturé par les... Enfin, il n'a pas été capturé, il s'est rendu aux Américains, et donc vous savez que c'est lui le père de toute l'exploration lunaire et de toutes les fusées civiles américaines. Voilà le V1, et le V2, c'est la maquette qu'il a entre les mains, et on a retrouvé dans ses papiers donc le bouquin de Tsiolkovsky, qui était inconnu en dehors de la Russie, qui était annoté de sa propre main. Voilà. Donc il était au courant de la formule, évidemment. Et donc, avec des fusées, on a inventé l'industrie des lanceurs, industrie qui, aujourd'hui, est une industrie qui est largement, on va dire, étatique. Mais avec M. Elon Musk et SpaceX, elle qui devient progressivement privée, aux grandes dames d'Ariane Espace. Les missiles de croisière, ça on ne les montre pas souvent en photo, mais tout ce qui se passe en Syrie en ce moment, c'est souvent fait avec ces machins-là. Et les missiles intercontinentaux, c'est des choses qu'on montre pour faire peur aux autres. Jusque-là, heureusement, on n'a jamais été dans la situation de les utiliser. Voilà les grands constructeurs militaires, et civils d'ailleurs, donc Boeing, Lockheed, Airbus et Dassault. Donc je recite à nouveau Dassault. Dassault a subsisté parmi toutes les périodes de contre vents et marées. Et il n'est pas dans Airbus et il est toujours dans le coup. Et donc en dehors de l'Europe, vous avez British Aerospace, on va dire, c'est l'équivalent d'Airbus, mais en Grande-Bretagne. Bombardier, c'est la compagnie canadienne. Embraer, c'est la compagnie brésilienne. Ilyushin, et j'ai mis Chengdu. Alors, c'est le plus gros constructeur. Chengdu, c'est la capitale du Sichuan, sud-ouest de la Chine. Et il y a une compagnie qui s'appelle Chengdu. C'est le plus gros constructeur d'avions, mais c'est encore très éclaté en Chine. Les compagnies aériennes, voilà le mythique Super Constellation, voilà les grands noms des compagnies américaines, et vous savez que ça s'est réduit sur la fin de la... voilà les compagnies Europe et en Asie. Alors, les dernières évolutions donc technologiques, l'utilisation de métaux et de matériaux nouveaux, le titane, et les, ce qu'on appelle les composites, c'est-à-dire du plastique avec des fibres de verre et des, à l'intérieur. Donc vous voyez la proportion des composites qui augmente en fonction des années dans les différents avions commerciaux. Les volets hypersustentateurs, vous avez tous pris l'avion pour aller en vacances dans les pays lointains, vous avez tous vu au moment de l'atterrissage ces volets qui se déploient, donc vous vous posez la question, tout simplement, ben c'est pour qu'on ait une portance suffisante à basse vitesse pour les travaux d'approche pendant les phases d'atterrissage. Donc en fait, vous devinez ça un peu quand on regarde par le hublot, il y a une mécanique quand même assez diabolique pour faire fonctionner tout ça. Donc vous voyez où ça se trouve ici sur l'avion. Et il y a même également des nez qui s'abaissent un petit peu, qui augmentent également la portance. Le turbocompresseur, donc vous avez des belles images là, donc je rappelle le principe, l'air s'engouffre à l'avant dans ce ventilateur, on va dire ça comme ça, qui est un compresseur, qui est entraîné par la turbine qui est à l'arrière. Cette turbine est actionnée par le flux qui sort du turboréacteur. Donc là, ça pousse le gaz sous pression dans la chambre de combustion. Là, on envoie le carburant et l'énergie se déploie et fait tourner la turbine. Voilà le principe de base. Alors, il y a différents systèmes plus sophistiqués. Je vais vite. Voilà des belles images. Il y a ce qu'on appelle le double flux. Mais je vous montre surtout une autre coupe ici, qui montre comme c'est compliqué, qui montre par exemple sur ce moteur, je ne sais plus lequel c'est, il y a en fait trois parties qui tournent, une partie basse pression, une partie pression intermédiaire, une partie haute pression, et en plus, dans tous ces rotors qui se embriquaient les uns dans les autres, il y en a deux qui tournent dans un sens et un qui tourne dans l'autre. Donc, et tout ça, pourquoi on fait des trucs aussi compliqués? Tout simplement pour baisser la consommation spécifique. Qu'est-ce que c'est le même problème que les moteurs à piston, c'est-à-dire comment faire pour avoir plus de puissance, plus de poussée, avec moins de consommation de carburant. Voilà la courbe des consommations spécifiques. Donc, toutes choses égales par ailleurs, vous avez des chiffres là, c'est en dans une unité quelconque, vous avez 60 ici, vous êtes en 1960, et en 2015, c'est 15. C'est-à-dire, en 50 ans, on a divisé par 4 la consommation spécifique des turboréacteurs. La façon d'inventer les avions et de les concevoir a considérablement évolué. On utilise des outils sophistiqués et modernes, c'est-à-dire la conception assistée par ordinateur, avec des belles images en couleur comme ça, où on calcule les contraintes, voilà comme ça. Des choses que l'on fait, que l'on calcule et non plus en soufflerie, on s'est simulé sur un ordinateur ce qui se passe dans une soufflerie. Et également, on a des machines qui s'appellent les simulateurs de vol, c'est-à-dire vous avez l'impression d'être dans la cabine du pilote, et en plus vous êtes sur des vérins, vous sentez les accélérations et les mouvements de toute la cabine, donc c'est très réaliste au niveau fonctionnement. Donc les pilotes sont entraînés sans voler d'une façon tout à fait convaincante. Autre grande innovation, et ça c'est Airbus qui l'a créé, c'est la transmission électrique des commandes. Jusqu'à présent, entre le manche à balai et les ailerons ou la dérive, y avait tout à fait au début des tringleries, des câbles, après des vérins hydrauliques, et après, il y a toujours des vérins hydrauliques, mais ils sont commandés par des commandes électriques qui permettent de simplifier un petit peu le système. Vous voyez l'informatisation du poste de contrôle. au lieu d'avoir des centaines de cadrans, maintenant on a deux ou trois cadrans, c'est un ordinateur, des ordinateurs. Le pilotage automatique, on en parle beaucoup en ce moment avec les événements sur le Boeing là, qui a des problèmes. Et voilà, les radars et les gyroscopes. Le train d'atterrissage escamotable, c'est venu relativement tard, le train d'atterrissage escamotable, tout simplement parce que c'est compliqué et ça prend du poids pour pas grand-chose, si vous voulez. Donc, il a fallu avoir des avions volumineux qui permettaient de se payer des trains d'atterrissage. Les avions de tourisme, il y a beaucoup d'avions de tourisme encore qui ont des roulages qui ne s'escamotent pas. Les matériaux composites, il y en a de plus en plus. Des chaînes de sous-traitance très compliquées, c'est-à-dire il y a le grand Airbus qui est en haut, et puis il y a 5-6 étages de sous-traitants en cascade qui font que tout ça, ça doit remonter d'une façon coordonnée jusqu'à la chaîne de montage, comme en automobile, mais c'est plus complexe encore que la chaîne automobile. Un point tel que même maintenant, les plus grands constructeurs comme Boeing a eu des difficultés, parce qu'il suffit qu'il y ait un sous-traitant majeur qui ait des difficultés pour que l'avion ne sorte pas. Et ensuite, l'idée de la certification par des organismes internationaux avec en disant ben, pour qu'un avion vole, il faut qu'on soit sûr qu'il puisse voler dans de bonnes conditions de sécurité. Ah, là je vais m'arrêter un petit peu. C'est toutes les inventions collatérales à l'aviation. Et on peut dire que ces inventions collatérales, si l'aviation n'avait pas existé, soit elle n'aurait jamais existé, soit elle serait venue beaucoup plus tard. L'exemple archétypique, c'est le radar. Le radar, l'idée du radar, elle est ancienne. Dès que la radio a existé, on va dire, et le radar s'était fait pourquoi ? C'était pour empêcher les collisions des bateaux quand il y avait du brouillard. Le channel, voilà pourquoi on essayait d'imaginer le radar. Ça marchait plus ou moins bien. Mais voilà. Et très rapidement, on s'est rendu compte que, l'avion allait devenir un outil majeur dans les conflits militaires, il fallait qu'on ait des radars performants. Je rappelle que la bataille d'Angleterre a été gagnée en partie grâce à la qualité de la couverture radar des Anglais. Mais il y avait quand même des contraintes, en particulier les radars, ça demandait des antennes de très grandes dimensions. Et donc l'idée d'avoir un radar qui soit sur un avion qui vole, ça paraissait complètement impensable. Et les Anglais, une fois de plus, ont trouvé une invention que je ne vais pas vous décrire dans le détail, qui s'appelle le magnétron, c'est ce machin là que vous voyez là. C'est un tube électronique particulier à résonance, à cavité résonante, qui fait que ça permet, pour faire court, de donner des impulsions électromagnétiques extrêmement puissantes, très brèves et dans un volume très réduit. Et cette invention-là, il n'y a que les Anglais qui l'avaient, et ils l'ont donnée aux Américains en septembre 1940 par la mission TITSAR, dont j'ai parlé dans le projet Manhattan. Dans le bagage des Anglais, il y avait trois choses. Il y avait le magnétron, donc le radar. Il y avait le turboréacteur. Et la troisième, en accessoire, la bombe atomique. Puisque l'idée de pouvoir faire une bombe atomique a été démontrée définitivement, théoriquement et expérimentalement, par les Anglais. Et donc, autour de ça, toute l'industrie du radar s'est développée. Surtout, on a su faire des radars qui pouvaient être mis dans des avions. Et on en a des variations à l'infini. Entre autres, on utilise des systèmes électromagnétiques d'approche des aéroports dont les sigles sont mentionnés ici. Vous réviserez à la maison. Le système d'approche, les derniers systèmes les plus... Donc l'ILS, Instrument Landing System, c'est un système qui permet de faire un atterrissage automatique avec sa variation la plus récente. Et maintenant, on a eu la conférence hier, le GPS qui rentre de plus en plus dans les avions pour compléter toute l'instrumentation. Un petit coup sur les hélicoptères, parce que les hélicoptères, on en a à peine parlé, et les hélicoptères, c'est un élément de l'aviation. Alors voilà Léonard de Vinci, le premier qui a parlé des hélicoptères au sens romancier, ben, c'est encore Jules Verne, Robur le Conquérant, voilà, donc une espèce de bateau avec des tas d'hélices animées par des moteurs électriques et puis qui fait des choses, voilà. Et l'inventeur physique, ben, c'est encore un Français, c'est Paul Cornu qui a inventé un hélicoptère un peu archaïque, 1907. Le voilà sur son hélicoptère, s'en est resté là, c'était trop compliqué. Et celui qui a vraiment réussi à faire la chose, c'est le fameux Sikorsky, et le voilà, c'est lui qui est aux commandes, vous voyez, il a gardé son chapeau, hein, qui est aux commandes de son hélicoptère. Et voilà Sikorsky sans chapeau. Et là, je vous ai mis une petite image pour montrer comment ça marche. Parce que personne ne sait comment, enfin personne, c'est pas très connu de savoir comment ça marche. C'est d'une complexité abominable. C'est-à-dire, quand la pale, vous voyez les pales qui tournent, eh bien, quand la pale avance, elle est bien inclinée pour avoir de l'importance. Quand elle a fait un demi-tour, eh bien, on l'abaisse, qu'elle ait une importance pratiquement nulle, et ça recommence le tour suivant. Donc, il n'y a que les pales avançantes qui supportent l'hélicoptère. Et ça, on ne s'en rend pas compte. À chaque tour, chaque pale fait ça. Mais on ne le voit pas, parce que ça va trop vite. Alors voilà, j'ai un petit dessin animé qui montre comment ça marche. Alors, l'invention, c'est M. Sikorsky qui a inventé ça, et qui a permis de faire les choses. Donc voilà les petits dessins qui expliquent les choses. Et pour faire tourner ce bazar, eh bien, il faut des moteurs. Alors, il y avait des moteurs à piston jusqu'à une période récente, et il y a une société française, une fois de plus, Turbomeca, le Pays Basque, qui a inventé une turbine ultra compacte qui a, et vous entendez très souvent les hélicoptères qui passent au-dessus de vous, ça siffle. Et ça veut dire que ce n'est pas un moteur à piston, c'est une turbine qui fait tourner l'hélice. Une petite mention pour les Canadair, qui est une application particulière, et j'ai quand même fait une mention pour l'aviation de tourisme. L'aviation de tourisme, le fameux Cessna, c'est l'avion qui a été le plus produit quantitativement dans le monde. Les avions militaires les plus produits, au maximum, ont atteint 20 000 exemplaires par modèle. Le Cessna, 43 000 modèles. Alors, les dernières évolutions, je rappelle qu'il y a une bizarrerie qui paraît curieuse aujourd'hui, c'est que le carburant est détaxé. Il n'y a pas d'impôt sur le carburant, au grand dam des écolos aujourd'hui. Donc on ne peut pas mettre de taxe carbone. Enfin, il y a suffisamment de personnes qui ne veulent pas mettre de taxe carbone sur le carburant des avions pour que ça ait du mal à se faire. Jusqu'aux années 80, les compagnies nationales sont survécues largement parce que c'est des compagnies nationales. Ça a commencé à voler en éclats après la première crise pétrolière, avec la montée du prix des carburants. Et une nouvelle chose, l'apparition du terrorisme qui a une influence sur la façon de gérer les avions. Voilà les courbes qui montent sans arrêt. Donc, vous voyez par exemple ici le fait que le trafic a augmenté de 2000, alors ça c'est les dernières, 2000-2011, ça a augmenté de 50%, et le fuel, on n'en a pas consommé plus grâce à la baisse des consommations spécifiques. Voilà le fret aérien. Un mot sur la normalisation, c'est-à-dire que... Tout le monde ne peut pas tout faire, tout ce qu'il veut, donc il y a des organismes de normalisation qui sont mis en place au niveau international, et en particulier un système qu'on connaît bien maintenant dans l'industrie, le système d'assurance de la qualité, c'est-à-dire la documentation de fabrication des avions. Non seulement c'est les contrôles finaux, mais c'est tout ce qui se passe dans le processus et de conception et de fabrication des avions. Les organismes internationaux, l'OACI, l'IATA, le CEAC, la FAA, donc on en parle dans les journaux en ce moment, l'Agence fédérale américaine de contrôle, à qui on reproche de ne pas avoir fait les bons contrôles pour le fameux Boeing qui a des problèmes. Les évolutions futures, on n'attend pas dans les 20 ans qui viennent de révolutions extraordinaires, il n'y aura qu'une sophistication, mais pas de rupture au niveau de la technologie. Voilà les augmentations de trafic, voilà les évolutions, ce sera plutôt sur d'autres types d'appareils, c'est-à-dire les missiles de croisière, les avions stratosphériques et les drones. L'aéronautique, finalement, a été un moteur complet d'innovation technologique, non seulement dans son propre domaine de compétences, mais également dans toute sa périphérie. Alors, je fais une petite pause, là c'est la conclusion. Hein. Les conséquences sociales de l'évolution de l'aéronautique. L'avion a bien sûr changé nos sociétés. On pense toujours au bon voyage qu'on peut faire à l'autre bout du monde. Il n'y a pas que ça. L'avion, c'est l'outil de la mondialisation. C'est l'outil du rapprochement des cultures, ou du choc des cultures, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc, tout le monde va chez tout le monde. L'uniformisation des modes de vie urbaines. Simultanément, il y a une urbanisation générale qui est amplifiée par l'existence de l'aviation commerciale. Et on tombe dans un certain nombre de pièges, qu'on voit en ce moment, le piège du tourisme de masse, qui est en train de s'autodétruire parce qu'il y a trop de touristes. Voilà les emplois qui sont créés et qui, dans beaucoup de cas, n'avaient pas d'équivalent avant que l'aviation existe. Voilà les emplois induits, c'est-à-dire ce qu'on appelle en économie les externalités. Voilà quelques statistiques. Voilà les statistiques américaines à aujourd'hui. Donc l'aéronautique aux États-Unis donne 2,4 millions d'emplois. Donc un tiers en direct et deux tiers en indirect. 872 milliards de dollars et 146 milliards de dollars d'exportation. L'équivalent en France, 187 000. Concentré essentiellement sur le sud-ouest, bien sûr. Les conséquences économiques de l'aéronautique. Je l'ai dit, moteur puissant d'innovation technologique, même en dehors de l'aéronautique elle-même. Conséquences géopolitiques. C'est l'outil invisible de la mondialisation. On est tellement habitué au fait que ça existe qu'on oublie, c'est comme les transports. On dit, ben oui, les transports existent, ben c'est très bien. Si les transports n'existaient pas, tout notre monde s'effondre. Alors j'ai mis une petite phrase, uniformisation culturelle par le haut. Bon, c'est une blague, évidemment, par le haut, évidemment. Délocalisation des conflits militaires. La Syrie serait impensable il y a 30 ans. Ce ne serait pas possible de faire la Syrie. Parce que physiquement, on ne pourrait pas déployer des Russes ou des Américains ou qui que ce soit, ou l'OTAN, à proximité du théâtre de guerre. Aujourd'hui, on peut le faire. C'est pour ça qu'on fait la guerre par procuration et à distance. Donc, c'est une industrie emblématique du XXe siècle. J'enfonce une porte ouverte. Elle a transformé le monde sans qu'on s'en rende bien compte. Ça fait partie du paysage. Il y a beaucoup d'emplois induits, et ça j'insiste beaucoup, aujourd'hui, elle garde, malgré tout ça, une image positive dans la population. On n'a pas une image négative, comme par exemple le nucléaire, si vous voulez, une image négative de l'aéronautique. Et pourtant, tout n'est pas rose dans l'aéronautique. Et un moteur d'innovation technologique. Alors, j'ai mis, comme je voudrais que tous mes conférenciers le fassent, une bibliographie. Donc, vous la lirez. Hein. C'est les bouquins que j'ai agités devant vous. Et je vous ai mis quelques sites. Alors, je vais même faire... Je vous demande un petit temps pour pouvoir le faire. J'ai à peu près une quarantaine de documents qui concernent les personnages que je vous ai montrés ou les avions que je vous ai montrés, et avec une fiche indépendante. Et je pourrais la mettre sur le site pour cliquer dessus si vous voulez aller plus loin dans les détails. Et je vous remercie. Et excusez-moi d'avoir dépensé mon temps de parole. Vous avez le droit de me poser des questions. Vous êtes sans voix. Ouais. Non, mais surtout de tasser, parce que vous avez vu les images, les effets défiler très vite, parce que sinon, on serait là encore ce soir. Hein.
Les sociétés nationalisées en 1937 avaient une vocation régionale. Au sud-ouest.
Parce que ça paraissait simple de faire ça en disant on va le faire. Il n'y avait pas de TGV ni de machin. Donc pour communiquer avec les sous-traitances, il valait mieux faire. Alors ça a été fait d'une façon relativement intelligente par Pierre Co, c'est-à-dire que les anciens propriétaires, donc ça n'a pas été une nationalisation à 100%. Les anciens propriétaires ont gardé. Départ et s'occupait des bureaux d'études de ces sociétés. C'est-à-dire que les gens qui étaient aux manettes, au sens technique du terme, c'était quand même les anciens concepteurs des... On n'a pas mis des fonctionnaires, en clair, comme dans ces sociétés. Mais c'est plutôt un problème de logistique qui a fait patauger le système dans la semoule, parce que ce système de pyramidal de sous-traitance tel qu'on le connaît aujourd'hui, et avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, pour le mettre en place en 1936 ou 1937, où je rappelle qu'il y avait quand même la moitié des usines qui étaient tout le temps en grève, je rappelle ça aussi, qui était un élément fort de perturbation de tout ça, donc c'était pas facile.
Comment Dassault a repris ses parts? Retrouver son indépendance grâce à Marcel Paul
qui était... Non. Alors, disons, il y a beaucoup de choses. Quand Mitterrand a nationalisé les compagnies, à nouveau, nationalisé, mais à la mode dure, hein, c'est-à-dire c'est 100% l'État. Dassault a trouvé une embrouille, comme toujours, pour dire, je vous en fais cadeau, mais vous me gardez... Je ne suis pas nationalisé à 100%, j'en garde une partie, mais le reste, je vous le donne. Je ne vous le vends pas, je vous le donne. Futé le petit Marcel. Et donc, il est resté dans le système. Puis après, il y a quelque chose qui a beaucoup aidé quand même. C'est que le père de Jacques Chirac, c'était le directeur financier de Marcel Dassault. Donc, dans la période chiracienne, Marcel Dassault avait porte ouverte au palais. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce n'est pas tellement d'aller au palais, c'est surtout que la pompe à finances étatique l'alimente. Mais je prends un exemple du choc culturel de Dassault, c'est le problème du Rafale. Vous savez que le Rafale, tout à fait au début, le Rafale, c'est une conception endogène de Dassault. Et évidemment, l'armée n'avait pas fait le cahier des charges. Oh! Comment ça se fait qu'on nous propose un avion dont on n'a pas défini les caractéristiques? Scandale absolu. Hein. Et donc, il avait fait son avion, puis l'armée disait, moi j'en veux pas, moi je ne l'ai pas demandé. Ça ne m'intéresse pas ton truc. Moi je garde les avions d'avant. Alors bon, finalement, en particulier pour l'aéronaval, il y a un problème de longueur de la piste d'atterrissage, il a fallu mettre des rallonges au Charles de Gaulle, parce que ça tenait. Ça ne passait pas. Hein. Bon, il y a toutes ces petites chicayas habituelles. Mais alors maintenant, le Rafale, on est en pamoison, en disant, tout simplement parce que tous ces beaux conflits en Syrie, dans les pays du Moyen-Orient, montrent la redoutable efficacité de cet outil-là. Et aujourd'hui, on dit, au niveau chasseur-bombardier, il n'y a pas photo, le meilleur, c'est le Rafale. Et maintenant, il y a des gens pour l'acheter. Pourquoi il y a des gens pour l'acheter? Tout simplement parce qu'il y a des conflits. Tant qu'il n'y avait pas de conflits, on ne veut pas acheter d'avions qui ne vous serviront pas. Voilà, voilà. Donc, le problème de géopolitique et morale et éthique des industries d'armement, ce n'est pas simplissime. Voilà. Mais ça peut faire l'objet d'autres débats. Voilà. Comment ? Oui, bon. Écoute, j'ai pas le tarif catalogue. voilà, bon. Pas d'autres questions ? Ah.
Tout était parfait. Simplement, les commandes électriques. Les commandes électriques, oui. Les Focke-Wulf font 42, oui. Vous avez déjà les commandes électriques.
D'accord.
Le problème actuel, c'est que la commande électrique, on passe par un calculateur en ordinateur.
Oui.
Le pilote, par exemple, affiche une assiette de montée.
Oui.
Et l'avion gère tout seul des commandes.
Voilà.
Donc sur Airbus, on ne peut pas sortir de ce programme. Théoriquement, sur Boeing, on pouvait en sortir.
Oui.
D'accord. Mais le pilote ne pilote plus.
N'a pas accès.
Il donne des informations.
Voilà. Et c'est le calculateur qui fait ce qu'il a fait.
Le calculateur
a des problèmes.
Qui est passé, on suppose, sur le Rio Paris.
Oui.
Sur le calculateur, il donne de mauvaises informations. L'avion.
Oui, se casse la figure.
D'une part. L'ont fait beaucoup parce qu'elles ont des doutes sur la formation
des pilotes.
Des pilotes. Donc, on a rajouté des tas de paramètres,
oui.
Qui expliqueraient peut-être en partie les accidents du Boeing.
D'accord. 737. Et vous pourrez parce peut-être en dire un petit mot. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, effectivement, c'est le début, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais disons, c'est pas défendu de faire des petites projections comme vous le faites là en ce moment. Je pense que le public sera intéressé. Donc le 1er avril, M. Folléas nous parle des avions de guerre pendant les conflits. Et donc le 3 avril, M. Lyonnais vient nous parler de... Alors il a utilisé un titre absolument extraordinaire, mais qui m'a fait sourire. C'est « Luxe et volupté dans les airs ». C'est pas mal ça. Hein,
sensualité. Hein. Quelle sensualité.
Quelle sensualité. Voilà. Ça se couait quand même un peu. Hein. Mais bon, l'idée c'est de dire, on passe dans une activité, disons, oui, de luxe, il n'y a pas de doute. Seuls des gens qui étaient très fortunés pouvaient utiliser les avions de l'époque. Pierre, tu voulais poser une question ?
Juste pour dire, tu n'as pas tout parlé, beaucoup évoqué le premier avion à réaction, c'était le Vampire,
oui.
Et entre parenthèses, c'était en bois.
Oui.
Il faut être
gonflé, quand même. Oui. Oui. Bon, je ne peux pas évoquer tout. Hein. Donc j'ai essayé de tasser au maximum, donc j'ai fait mes meilleurs efforts. Voilà. Merci. Et puis à une prochaine fois.
J'étais dans l'Essonne quand j'ai vu arriver Serge Dassault.